Donc la première question, c'est un petit peu de savoir depuis combien de temps vous habitez Orléans.
Oui, d'accord.
Donc, vous habitez sur place ou je crois que vous rentrez
Alors non,
manger chez vous normalement?
oui, voilà, donc mon commerce est sur Orléans, mais je suis sur la commune de Chingy. Donc, je suis installé sur la région depuis à peine 10 ans. Donc, pour des raisons professionnelles, on va dire, j'ai décidé de créer mon premier commerce sur l'agglomération. Et donc voilà, donc une intégration qu'il a fallu aussi quelque part, on va dire, préparer dans le sens où je suis pas natif de la région, je suis natif de la région de Bretagne, ma femme est auvergnate, donc voilà une insertion aussi bien en centre-ville par rapport aux autres commerçants et puis à la population orléanaise et puis après d'un point de vue personnel sur la commune de Chingy.
Et donc justement, la réputation des Orléanais, qui est d'être un petit peu fermée, ça, vous l'avez vérifié ou...
Oui, je l'ai vérifié, mais bon, je pars sur le principe que quand on n'est pas natif d'une région, on est toujours confronté de toute manière à des obstacles, justement, des cercles qui sont parfois un peu fermés, des mentalités des fois un peu plus resserrées dans des régions que d'autres. Bon, J'ai eu l'occasion de voyager un petit peu dans différentes régions de France. Donc, je m'aperçois qu'Orléans, c'est que de toute manière une ville, c'est vrai, un petit peu fermée aux nouveaux habitants, on va dire, dans un premier temps. Mais bon, c'est quelque chose qui se construit peut-être un petit peu plus longuement qu'ailleurs. Mais voilà, bon, une fois qu'on est intégré, ça se passe très bien. Il n'y a pas de. Mais bon, il y a une réputation des fois peut-être. Moi, je vois au niveau des commerces où on a souvent des réflexions d'accueil qui sont pas toujours qui sont pas toujours dans l'esprit vraiment du commerce où on attend ne serait-ce qu'un bonjour et un au revoir. Bon, bah voilà, bon, les clients qui rentrent dans la boutique ont, je pense, un bon accueil. Bon, après, je pense, ça dépend un petit peu de l'origine des gens. Et puis, bon, il y a certains commerçants qui sont installés depuis très longtemps, qui ont de nombreuses boutiques, donc des connaissances de clientèle qui est déjà en place depuis très longtemps, donc ils font peut-être moins d'efforts pour accueillir le nouvel habitant, on va dire.
Oui, il y a des vieilles familles.
Voilà. Exactement. Voilà, je pense que ces échos viennent peut-être de ces familles qui sont un petit peu comme chez elles au centre-ville.
Et donc, qu'est-ce qui vous plaît à Orléans? Qu'est-ce qui vous a poussé justement à venir et vous installer ici.
Alors c'est un petit peu à hasard. On peut pas dire que j'ai consulté vraiment les attraits de la ville en m'implantant à Orléans. J'ai vu dans un premier temps le potentiel économique de la région. Et donc je me suis dit que c'était sûrement une ville qui est en train d'évoluer aussi, donc qui avait sûrement un potentiel intéressant pour créer son commerce. Plutôt que d'aller des fois dans une région peut-être plus accueillante, que ce soit au niveau du paysage ou des mentalités. Voilà, c'était pour moi secondaire. Bon, après, moi, c'était me situer à Orléans d'un point de vue géographique pour que la famille se sente bien aussi ma famille étant de Bretagne, celle de ma femme d'Auvergne, on a un petit peu centré, voilà,
coupé la poire en deux,
donc avec les inconvénients que ça peut aussi engendrer, disons.
Et donc justement, au niveau de votre trajectoire personnelle, vous avez travaillé, vous êtes resté en Bretagne ou vous avez bougé
Non, j'ai eu l'occasion de par mon métier dans la sommellerie, de fréquenter voilà, des établissements un petit peu partout en France, et les grands établissements étant assez limités, donc on trouve des belles maisons dans l'hôtellerie plutôt sur les grandes villes, donc Paris évidemment, et puis après travailler chez des grands chefs cuisiniers où là il y a des structures de plus importantes, et puis une qualité de service qui est quand même assez affinée, donc des places dans d'autres régions de France, que ce soit en Normandie, évidemment en Bretagne, un petit peu plus au sud de la France, et puis à l'étranger. Donc je pense que ça ouvre aussi un petit peu les esprits, hein, dès lors où vous quittez un peu vos régions natales, on se permet d'analyser un petit peu différemment les villes d'accueil. Voilà.
Et vous êtes originaire de quel endroit en Bretagne ?
Erquy. Donc c'est situé entre Saint-Brieuc et Saint-Malo.
D'accord. Donc toute votre famille, enfin vos parents sont là-bas aussi.
La famille du côté de mon père et du côté de ma mère sur la région parisienne.
D'accord. Et vos parents étaient aussi dans le vin, ou c'est juste une,
du tout,
une
du tout.
Vocation
du tout. C'est une vocation de par mes études, et c'est devenu une passion. Donc voilà, le but c'était d'en vivre convenablement.
D'accord. Et du côté de votre femme, alors c'est l'Auvergne,
Limite Auvergne sur l'Allier.
D'accord.
Du côté de Vichy.
Bah, remarquez, il y a le bois là-bas, donc pour faire les tonneaux, c'est...
Voilà, tout à fait, oui, tout à fait.
L'Allier, c'est le
Troncet,
c'est ça
le Troncet, oui, oui. Donc c'est... c'est une région d'ailleurs où il y avait beaucoup d'échanges dans le milieu du vin. Hein. Le grand-père de ma femme était marchand de vin, donc c'est amusant, voilà,
oui,
de retrouver.
Ouais. C'est pas le lien direct, mais bon, c'est
du
côté de la belle
quelque
famille.
Part.
Et donc vous n'avez pas souhaité vous installer sur Orléans avec votre famille, vous avez préféré un petit peu être excentré. Peut-être c'était plus facile de trouver une maison à l'extérieur
d'Orléans. Oui, puis la recherche un petit peu du calme à Chingy, c'est un peu la campagne à la ville. Voilà, c'est bon, quand on travaille toute une semaine sur le centre-ville, on souhaite autre chose. Enfin, en tout cas, personnellement, j'y trouve beaucoup plus d'intérêt à pouvoir profiter de la campagne, des forêts, avec mes enfants, et en étant avec une maison avec un jardin pour profiter que les enfants grandissent aussi avec un tour et un petit peu de la nature.
Voilà. Oui, parce que là vous êtes aux premières loges en ce qui concerne le tram, le mouvement.
Ah oui, là c'est sûr qu'en ce moment c'est une période un petit peu compliquée. On part sur un projet qui en définitif sera sûrement intéressant pour la ville. Mais en même temps, bon, on est forcément obligé de subir les années de travaux sur la place de Gaulle. C'est vrai qu'en ce moment c'est c'est un petit peu il y a la vie sur terre et sous terre, voilà.
C'est prévu pour finir quand tous ces travaux?
Théoriquement 2012. Il faut encore un petit peu de patience.
Ouais. Et vous pensez que ça va faire du bien au quartier, ou que c'était nécessaire? C'est pour la deuxième ligne de tram, en fait.
Oui. Oh, je pense que d'une manière, c'est les dynamiques des grosses agglomérations comme celle d'Orléans dans le futur. Donc, je pense qu'on recherche de plus en plus voilà, des centres-villes où on a accès autrement que par la voiture. Donc, vraiment savoir comment la ville va évoluer, est-ce que la population autour d'Orléans sera plus tentée à venir en centre-ville avec ses infrastructures, c'est difficile à savoir, mais je pense que une partie de la population de toute manière est plutôt intéressée à avoir un accès rapide sur la ville sans avoir le souci de stationnement. C'est vrai que le stationnement est déjà compliqué. Alors bon, là évidemment avec la période des travaux, on n'en parle pas, mais c'est vrai que je pense quelque part que pour la ville, ça sera un projet qui va être intéressant. C'est peut-être ouvrir la ville sur voilà une manière plaisante de découvrir la ville plutôt à pied sans avoir le stress de la voiture et du stationnement. Donc, alors est-ce que toutes les tranches de population sont prêtes à prendre le tramway? Je ne suis pas forcément certain, mais en tout cas la dynamique de la municipalité est bien, en tout cas a bien cette optique. Donc,
ouais, tout dépend aussi toujours d'où on habite, parce que c'est vrai que s'il faut 20 minutes à pied pour aller prendre le tram, quelquefois on a aussi vite fait soit de venir directement à pied dans le centre-ville, soit de prendre sa voiture pour les gens qui sont à l'extérieur.
Oui, c'est ça. Moi je pense que c'est destiné plutôt à des agglomérations assez lointaines où pour ça, bon, il faut que les infrastructures soient aussi bien pensées, avec des parkings relais, voilà, qui aient des avantages aussi à poser sa voiture et prendre le tramway ensuite. Donc, si tout ça est bien pensé, je pense que ça peut. Je pense qu'on a quand même des modèles d'autres grosses agglomérations qui ont mis en place le tramway et qui aujourd'hui vivent très bien. Hein, donc, que ce soit Bordeaux ou d'autres villes qui se sont aussi embellies. Bon, je pense que c'est un ensemble aussi. Là, il y a la deuxième ligne de tram. Bon, quelque part, je pense qu'il y a aussi la petite guéguerre entre Tours et Orléans pour être la représentation vraiment du chef-lieu et avoir toujours peut-être un avantage et puis on s'engage plus sur des discours politiques mais en tout cas est-ce que c'est vrai que il peut y avoir débat sur l'utilité d'une deuxième ligne de tram, bon, en tout cas vu qu'il y en avait une qui traversait dans un sens à la ville, oui. Ça paraît logique qu'il y en ait une deuxième pour ouvrir les autres. Moi, je suis bien placé pour le voir, parce que bon, habitant Chingy, la ligne va se terminer à la chapelle Saint-Mémin, donc voilà, ça ouvre aussi les portes sur la ville différemment. Est-ce que dans le futur, je prendrai pas le tramway pour me rendre à mon commerce? C'est possible.
Alors justement, vous n'êtes pas étudiant, c'est plutôt les étudiants qui ont cette représentation de la compétition entre Tours et Orléans, parce qu'on dit toujours qu'à Tours ça bouge plus et qu'à Orléans il n'y a pas grand chose, mais à votre avis, entre Tours et Orléans, quelle est la plus représentative de la région centre?
Alors bon, j'ai pas une grosse connaissance de la ville de Tours. On parle, c'est vrai, on parle d'une ville peut-être plus dynamique sur Tours. Bon, il faut dire aussi que Tours, géographiquement, elle est située vraiment sur l'entrée des visites aussi de toute la Loire et ses châteaux, son patrimoine. Orléans est un petit peu plus excentrée, un petit peu plus ouverte sur la Sologne et puis et la Beauce. Hein, donc je pense qu'il y a un attrait aussi peut-être plus touristique d'une part sur Tours. Et après, au niveau de la vie, on va dire étudiante, on parle souvent des jeunes beaucoup plus présents en centre-ville à Tours qu'à Orléans. Alors après, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Bon, c'est vrai que le fait que l'université d'Orléans est un peu excentrée quand même hein, de la ville, hein, une dizaine de kilomètres, c'est quand même ça peut être une barrière. Il est certain que les jeunes en ville apportent forcément du dynamisme dans les commerces et du coup je pense que tout le monde en profite. Après, bon, ça aussi ses inconvénients, donc par rapport à une population vivant le centre-ville. Donc je pense d'un point de vue personnel que le fait que l'université soit excentrée empêche peut-être une certaine dynamique, ça c'est certain. Bon, il y a aussi la proximité de Paris qui peut-être est en défaveur de la ville d'Orléans. J'entends beaucoup de jeunes qui préfèrent prendre le train et se rendre en 1 heure dans le centre-ville d'une ville où tout est ouvert à toute heure. Voilà.
Ouais, puis pour tout ce qui est expo, etc.
Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Hein. Je pense que on peut pas comparer une ville comme Paris et comme Orléans au niveau du dynamisme culturel et des lieux de vie, que ce soit les musées, les cinémas. Bon, ceci dit, je pense qu'à Orléans, il y a quand même de quoi faire. Bon, en tout cas, je parle d'un point de vue personnel, quelqu'un de ma génération qui a 2 enfants, si on veut aller au restaurant, il y a du choix, si on veut aller au cinéma, il y a du choix. C'est sûr que les lieux culturels, il y a quand même un théâtre, il y a quand même des concerts de musique classique, le festival de jazz. Donc je pense quand même que le maire essaye peut-être quand même de mettre un élan à cette ville qui était considérée plutôt comme une ville dortoir il y a quelque temps. Moi, en 10 ans, je vois quand même la ville aussi s'embellir. Je pense que aussi dans l'esprit des jeunes, ils doivent se rendre compte aussi de ces changements. Donc il y a peut-être des choses encore à améliorer, mais on va en tout cas sur une ville qui est plutôt agréable, on va dire. Après sur voilà on peut profiter d'une ville qui est quand même historiquement chargée et puis tous les quartiers qui ont été rénovés est plutôt agréable pour faire du shopping ou flâner dans les donc la compétitivité avec Tours. Bon, je connais pas suffisamment Tours pour m'exprimer, mais je pense qu'elle est peut-être plus due à une dynamique de jeunesse.
Ouais. Justement, habile transition, parlant de jeunesse, vous avez parlé de vos enfants tout à l'heure, ils sont petits, donc quel âge?
Oui, ils sont petits, ils ont 5 ans et 7 ans.
Oui. On peut vous demander leur prénom.
Oui, donc le grand s'appelle Kieran et mon second fils s'appelle Alan.
D'accord. C'est des noms plutôt consonants celtes.
Oui, voilà, tout à fait, oui.
Vous avez choisi.
Bon, il y a de par mes origines et puis, une symbolique autour de notre rencontre avec ma femme. Donc, on a choisi des prénoms à consonance un petit peu celtique. Anglo-saxonne.
Et donc justement pour vos enfants, ils sont, il y en a un qui est au primaire et puis enfin les deux doivent être au primaire.
Il y a donc il y en a un qui est à la maternelle et l'autre qui est au CP.
D'accord. Et ils sont tous les deux scolarisés sur Chingy.
Sur Chingy, oui. Donc plutôt une commune qui est plutôt agréable avec une école, quelques commerces, la construction d'un futur collège aussi sur Saint-Y, donc pour le futur c'est bien situé aussi. Donc il n'y a pas de problème pour nous de les intégrer.
Ils resteront dans la commune ou en bordure.
Oui, voilà, c'est ça. C'est important, je trouve, en ayant la famille un petit peu éloignée, d'essayer de créer aussi un cocon dans ses fréquentations amicales et puis. Et puis de relations de papa et maman d'école. Donc ils ont leurs repères aussi qui se mettent bien en place sur la commune. Donc c'est bien pour l'équilibre
oui, parce
de la famille.
Si c'était scolarisé à Orléans, bon après vous rentrez le soir, il n'y a plus de copains, il n'y a pas tout le cocon d'amis autour.
Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est aussi bien comme ça. Ils ont leur vie sur la commune de Chingy et ils profitent gentiment parce qu'ils sont encore petits, mais de la proximité d'Orléans.
C'est des écoles, c'est public.
Public.
Et il y a beaucoup de choses à faire sur la commune pour les enfants. Enfin, vous disiez que vous venez de temps en temps sur Orléans pour peut-être les grandes sorties entre guillemets, mais sinon oui. le week-end.
Le week-end c'est plutôt réservé à profiter, je vous disais, de la tranquillité d'une petite commune comme Chingy. Ils ont leur activité sportive déjà sur la commune, donc il y a des choses qui sont faites pour le bien-être pour l'accueil des habitants de Chingy. Donc et là ils sont tous les deux inscrits au judo, ils vont jouer de temps en temps sur le terrain de foot. Ils sont encore petits, mais dans le futur il y aura sûrement d'autres activités, que ce soit la musique ou qui sont proposés. Donc on n'a pas la nécessité de faire des activités pour l'instant ailleurs que sur Chingy.
Oui, donc dans l'absolu, si vous n'avez pas envie de sortir de la commune, vous n'avez pas besoin de venir à Orléans pour...
Non, c'est sûr.
Y compris les commerces, il y a tout ce qu'il faut, commerce de proximité.
C'est vrai qu'on s'organise... un peu différemment en étant la semaine sur le centre-ville, on profite des choses qu'on n'a pas forcément sur Chingy, tout en ayant un minimum de commerce, que ce soit la boulangerie, la boucherie, les commerces de proximité sur la commune de Chingy pour faire notre petite course et puis rencontrer d'autres gens aussi.
Oui, c'est
quand on
bien
va
bien.
sur le petit marché le dimanche matin, bon, c'est toujours sympa, voilà, de causer un petit peu avec les personnes qu'on connaît.
Oui, donc en fait, oui, c'est l'avantage de ces petites villes de l'agglo d'Orléans, où en fait, oui, comme vous disiez, c'est la ville à la campagne, il y a tout ce qu'il faut, et puis le jour où on veut se faire un resto spécial ou une sortie ciné, on va sur
Orléans. On va sur Orléans, voilà, tout à fait. Ouais.
Donc là, j'ai quelques petites questions sur plutôt votre métier. Donc vous le définiriez comment Là, vous êtes caviste, sommelier
Alors, un parcours de sommelier, mais donc le but en créant ma boutique, c'est de continuer à vivre de ma passion, mais du coup, en changeant mon métier de sommelier en métier de caviste. Voilà. Donc, on reste entouré par les vignerons et les nombreuses bouteilles voilà, qui sont élaborées par ces vignerons. L'approche est un petit peu différente puisque en sommellerie.
Ah, vous pouvez.
Peut-être.
Ouais. J'enlève juste le micro pour les répondre.
Oui, pardon. Bonjour. Ah, mais là, je ne veux pas être disponible maintenant. Ah, bah écoutez, rappelez dans l'après-midi. Ouais. Merci, au revoir.
Il n'y a pas de repos pour les braves.
Voilà, ouais, c'est un bizarre.
Hop, je me remets.
Voilà, donc l'approche est un petit peu différente puisque. En tant que sommelier, vous êtes là pour guider une clientèle voilà, sur un repas donc, dans le conseil, mais plutôt on s'adapte un petit peu au repas qui a été choisi. Bon, l'approche à la cave est un petit peu plus. On a plus le temps, disons, de parler du travail du vigneron, de parler d'un produit, d'un coup de cœur. Donc il y a aussi du conseil, c'est une des valeurs, on va dire, de mon commerce. C'est une clientèle qui est intéressée pour boire du bon vin. Et si elle entre chez un caviste, c'est pour être justement bien prise en main, bien guidée par rapport à des goûts personnels, par rapport à un menu, un repas, par rapport à une saison, il y a un véritable échange de conseils, de relations vraiment une relation ouais, voilà, autour du vin et vraiment de commerce dans l'esprit artisanal. Moi je suis un petit peu le relais justement entre le vigneron qui a mis tout son cœur pour faire un joli vin et moi bah, transmettre justement ce travail, cette passion et m'adapter un petit peu justement au plaisir que ma clientèle peut prendre sur tel ou tel vin, donc c'est intéressant, voilà ça. Alors c'est un travail qui est quand même assez qui est même très rigoureux dans la sélection de mes produits. Je m'adapte, disons que il y a des vins que je vais sélectionner parce que je les aime, parce que c'était le coup de cœur, c'est un échange, c'est une relation, c'est un avec le vigneron et d'autres vins parce que certains vins me sont demandés, parce qu'ils correspondent plus au goût d'un consommateur. Voilà. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu un mélange de sensibilité de chacun et essayer d'apporter une diversité, de l'originalité et puis une attente, voilà, aussi bien autour d'un budget qu'une grande bouteille vraiment de connaisseurs. Donc le choix est multiple et du coup mes recherches sont d'autant plus poussées et puis oui voilà rigoureuses hein. Donc il faut je vise une clientèle de gens qui apprécient le vin, donc il faut pas les décevoir. Donc le but est vraiment d'accueillir un nouveau client chez moi et de bien le conseiller et qui revienne en me disant votre choix était vraiment juste et j'ai beaucoup apprécié ce vin-là et donc je reviens chez vous pour soit reprendre la même bouteille ou soit tester autre chose. Donc il y a vraiment une relation de confiance qui s'installe en essayant de fidéliser la clientèle. De nos jours, c'est pas toujours simple. On a plus tendance maintenant à aller papillonner d'un endroit à un autre. Moi, j'aime ces relations de commerce qui sont basées aussi sur une relation fidèle. On vient chez moi parce que on apprécie mes produits, on apprécie mes conseils, on apprécie ma personne. Voilà. C'est ma vision du commerce.
Ça va pas être forcément facile parce que vous n'êtes pas tout seul sur Orléans, il y a plusieurs cas.
Oui, c'est vrai. Donc c'est là où on se départage un petit peu. C'est un petit peu sur un ensemble de points, que ce soit l'accueil, que ce soit le conseil, la qualité des produits. Donc tout ça, on a chacun notre vision, notre sélection. Après, je pense que sur une ville importante comme Orléans, il y a la place pour tous. Après, c'est vraiment au client de faire le choix d'aller plutôt chez l'un que chez l'autre.
Et pour la sélection des vins, vous faites des week-ends exploratoires ou vous allez chez les producteurs? Parce que bon, dans la région, d'accord, mais si il y a des vins de Bourgogne ou de Bordeaux,
vous
faites des petites excursions.
Ah, pour moi, c'est la base, hein, le caviste qui reste cloîtré chez lui. Bah forcément, il a moins d'échanges, moins de choses à raconter aussi. Il a pas forcément la sensibilité que l'on peut avoir avec un terroir, un échange avec un vigneron qui lui va vous guider ailleurs ensuite pour aller sélectionner un autre produit. Vous voyez, hein, quand quelqu'un travaille avec beaucoup de rigueur et de soin, voilà pour faire son vin. Bon, il a son cercle aussi de relations avec d'autres personnes qui travaillent un peu dans la même optique. Donc voilà des échanges qui se font pas par téléphone. Les vignerons déjà apprécient beaucoup d'avoir une personne physique chez eux. Ça permet de goûter tout leur vin, un millésime voilà qui change. Pourquoi un millésime a été mieux réussi qu'un autre? Pourquoi une cuvée a été mieux réussie qu'une autre? Bon, toutes ces choses qui sont importantes dans la sélection des produits se font aussi beaucoup sur le terrain. Donc voilà, se rendre disponible aussi pour aller dans le vignoble, pour moi, ça, c'est une des priorités de mon commerce. Mmh. Après, c'est pas toujours simple de le réaliser parce que on manque de temps quand on est commerçant. Surtout que je gère la boutique uniquement avec ma femme pour le moment. Donc faut savoir se libérer à des moments dans l'année où je vais avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir passer un week-end, voilà, 3 jours dans une région. Donc c'est important parce que c'est ce qui fait un peu la différence avec des cavistes qui sont. Donc je suis caviste indépendant, je ne fais pas partie d'une franchise. Donc certains magasins sont franchisés, ont un listing tous les matins avec le stock disponible sur telle ou telle référence et ont juste à remplir leur tableau sur l'ordinateur pour passer leur commande. Je pense que l'approche n'est pas du tout la même. Donc c'est aussi pour moi ce qui va faire la plus-value de mon commerce en rapportant les vins qui vont bien se goûter maintenant, les vins qui vont bien se garder. On me demande souvent aussi des cuvées pour des années de naissance, pour être sûr que dans 20 ans le vin sera bien à déguster, voilà, en compagnie de ses enfants. Donc c'est toujours être à l'affût un petit peu des vignerons qui travaillent bien, qui vendent encore leur vin à des prix intéressants par rapport à la qualité de leur travail, puisqu'on a toujours tendance à avoir des gens qui travaillent bien et qui ensuite sont un petit peu victimes de leur succès, donc les prix augmentent. Donc dans ces cas-là, c'est une autre vision. Après, on recherche d'autres personnes qui des nouveaux talents. Donc c'est une dynamique un petit peu. Donc être à l'affût, c'est aussi se déplacer et c'est tout un gros travail de relationnel qui se fait heureusement différemment qu'au téléphone.
Voilà. Et au niveau de votre formation, alors quelles études avez-vous suivi?
Alors à la base, c'était des études d'hôtellerie, donc j'ai bien failli être cuisinier plutôt que sommelier. Mmh. Et donc des études CAP, BEP, bac professionnel, donc dans le milieu de la restauration. Et puis un jour, un professeur professeur de salle qui était passionné de vin, qui m'a transmis vraiment cette passion. Un être peut vous faire changer complètement de voie. Donc j'ai toujours eu beaucoup d'affinités sur la cuisine, mais ma vision du contact était tellement importante. En cuisine, vous restez dans votre enceinte et entouré par des gens qui font la même chose que vous. L'ouverture sur la salle, sur la clientèle m'attirait déjà davantage, même si dans la création, je trouvais le métier de cuisinier beaucoup plus intéressant. Donc pour moi, la sommellerie, c'était un petit peu la condition entre les deux, avec une ouverture sur le consommateur et en même temps en vivant une passion comme celle de la cuisine, même si on n'est pas à l'origine de la création du produit, on est en tout cas sensible dans sa dégustation. Et donc c'est un véritable plaisir de partager justement un vin qu'on a adoré et essayer de le faire découvrir à d'autres personnes.
Vous pouvez le mettre en valeur justement avec les plats que vous allez cuisiner.
Voilà, mon intérêt de faire la cuisine est toujours aussi présent puisque à la maison je prends vraiment grand plaisir à cuisiner ma sélection du marché, on va dire, mon envie du moment, mon coup de cœur, sur un étalage, et puis partir sur une petite recette. Et du coup, c'est lié parce que un vin vous évoque un plat et un plat vous évoque un vin. Donc on essaye toujours de transmettre ça aussi à sa clientèle, c'est d'essayer de faire un accord juste quand quelqu'un a un menu prêt pour le week-end, on aime bien ajuster encore plus lorsqu'une personne accueille des amis ou de la famille autour de ce repas, de faire un juste accord avec le vin. Donc ça ne met qu'en valeur le vin. Donc c'est pour moi vraiment une importance dans mon relationnel avec la clientèle et dans le commerce du coup, puisque si on vient me revoir, si on revient au magasin, c'est pour peut-être pour les qualités de qualité que je peux avoir peut-être dans le conseil et de visionner un petit peu le repas de mon client et de lui amener le bon vin.
C'est intéressant de
Voilà.
manger chez vous, vos amis doivent se dire, bah c'est bien, non seulement ils cuisinent, mais en plus on va avoir le vin qui va aller.
C'est sûr que quand on vient chez moi, c'est tourné autour du vin dès l'apéritif. Donc même des amis qui ont l'habitude de boire des apéritifs un petit peu plus forts, que ce soit des whisky ou que ce soit des anisés ou d'autres d'autres apéritifs. Chez moi, on démarre avec une bouteille de vin qui va nous mettre en appétit justement et puis nous ouvrir un petit peu sur les bouteilles suivantes. Donc oui, en général, on passe à des bons moments.
Et donc, au niveau de votre journée de travail, est-ce que vous avez une journée typique à me décrire, par exemple? Vous partez de chez vous, puis ensuite, qu'est-ce que vous faites dans la
Oh, bah,
journée?
c'est dans une dans un premier temps, c'est tenir la boutique dans une dynamique constante, aussi bien autour de la vitrine pour que on ait envie en jetant un œil sur la vitrine d'entrer dans le magasin. Donc ça c'est essentiel. Et puis donc la journée, bon, elle est vraiment jamais identique d'un jour à l'autre. Hein. Ça va être ça peut être une mise en place d'un nouveau produit saisonnier. Là, on arrive sur les beaux jours, donc on commence à préparer sa sélection de vin rosé. Ça peut être pour la période des fêtes, trouver des idées cadeaux, des coffrets sympathiques, donc il y a une constance toujours dans la dynamique du magasin de que le client justement fidèle puisse trouver des choses nouvelles aussi. Donc entretenir un petit peu cette curiosité et cet échange justement en apportant au client en disant tiens, goûtez ça, c'est nouvelle découverte, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et puis, donc, voilà, donc y a, ça demande déjà un gros travail à ce niveau-là. Puis après, bon, il y a toute la gestion, la gestion d'un stock, la gestion de comptable, comptablement parlant. Donc, ça prend aussi beaucoup de temps. C'est entretenir la communication avec ses clients par tous les biais, que ce soit les mails ou sur le site internet, essayer de faire des mailings, essayer de dynamiser aussi en allant chercher les clients, puisqu'on est quand même dans une époque où on a de plus en plus accès à des offres qui sont toutes données sur en ouvrant son ordinateur, quoi, hein. C'est donc il faut essayer de pas se laisser aller, et puis dans des périodes où les gens vont pas forcément faire l'effort d'aller découvrir un magasin en centre-ville, essayer de donner l'envie de venir, justement. Donc voilà, bon, c'est un petit peu une journée qui tourne autour de tous ces axes. Mais c'est un gros travail aussi de recherche. Donc c'est le plus gros de mon travail, on va dire, dans les produits.
Et le midi, vous mangez sur place ou vous trouvez ma vidéo au téléphone?
Oui, alors.
Trier normalement.
Oui, alors pas toujours, mais c'est selon mon planning. J'hésite pas des fois à prendre la voiture et à faire 20 minutes pour rentrer chez moi, et voilà, avoir l'impression de faire une coupure aussi sur des journées qui sont quand même assez longues quand vous êtes commerçant. Donc ça fait du bien des fois aussi. Mais bon, voilà, tout dépend. Ça peut être une relation, un ami, un client qui passe. Bon, qu'est-ce que tu fais ce midi? T'as prévu de déjeuner en ville? On peut aussi profiter d'être en centre-ville et d'aller manger rapidement dans un restaurant. Donc je rentre pas systématiquement tous les midis.
Et votre femme, elle travaille avec vous alors, ou elle s'occupe de...
Oui, alors elle vient régulièrement à la boutique. Bon, elle a pas ma formation dans le vin, donc elle m'apporte du soutien sur des choses qui prennent aussi parfois du temps, que ce soit au niveau de communication justement ou gestion comptable, pour essayer de me soulager dans le... Donc elle est là aussi au magasin. Bon, quand je donne des cours d'initiation à la dégustation ou d'œnologie, je dois m'absenter. Elle tient la boutique pendant ce temps-là.
Vous donnez des cours sur Orléans ou à Lyon ?
Sur Orléans, oui, à l'Université du Temps Libre. Je donne des cours du soir, on va dire, sur une partie de ma clientèle qui passe une soirée conviviale autour du vin. Et donc c'est aussi quelque chose que je fais pour développer le bouche à oreille et mon image sur Orléans. Il faut aussi diversifier un petit peu pour créer toujours cette dynamique justement sur le bouche à oreille qui est pour moi aussi le plus important. Voilà.
Et vos enfants, vous avez envie qu'ils suivent vos pas ou ils font ce qu'ils voudront comme ils voudront
Après ils feront bien ce qu'ils auront envie de faire. Au contraire, je pense qu'il est bien de les guider dans le futur par rapport à notre sensibilité, en tout cas le perçu qu'on peut avoir d'un caractère, d'un voilà, d'une des choses qui peuvent leur où ils sont doués naturellement peut-être et peut-être donc développer ces choses-là plutôt que des fois de dire allez sur ce secteur-là parce qu'il y a du travail ou n'allez pas sur ce secteur-là parce qu'il n'y a pas de travail. Donc c'est je pense qu'on aura envie de leur laisser le choix. Si un jour l'un d'entre eux voilà veut suivre mes traces, pourquoi pas? Au contraire, c'est un métier noble et passionnant, donc c'est avec plaisir. Si. Bon après bon il y a le recul qu'on peut avoir sur sa propre vie. Bon c'est un métier où on vit avant tout d'une passion. Quand je vois les archéologues en ce moment sur la place de Gaulle, je me dis que c'est un petit peu similaire. Hein. C'est pas des vies où on recherche forcément la fortune. C'est avant tout de vivre de ce qu'on aime. Voilà. Donc faut les prévenir de ça aussi.
Oui, en tant qu'enseignante, je sais de quoi vous parlez. On fait ce qu'on aime, mais la fortune ne vient pas forcément avec, mais c'est vrai que bon, quand on se lève tous les matins en étant content de partir travailler parce qu'on fait un métier qui nous plaît, on se dit après tout, mieux ça que d'être à la chaîne.
Oui, c'est sûr. Je pense que bon, le choix, on vit dans un monde un peu trop, peut-être un petit peu trop superficiel, je trouve, des fois, où on. Tout tourne autour de l'argent, donc c'est bien d'en avoir, mais c'est bien aussi de vivre sa vie en étant épanoui et content de faire ce qu'on fait. Donc c'est pas donné à tous, hein. Je crois que c'est même une minorité. Donc voilà, bon, j'ai cette chance là. Bon après bon, on ne sait pas sur quelle route ils iront.
Et donc vous, quand vous ne travaillez pas, alors quand vous ne donnez pas de cours du soir, vous n'avez pas prospecté pour chercher des vins, que vous ne faites rien qui soit lié au vin, qu'est-ce que vous faites le week-end ou vous faites
J'essaie de profiter de ma famille avant tout. C'est un métier prenant, c'est dans l'équilibre familial, justement, si j'ai quitté la restauration. C'est avant tout pour ça aussi, hein, c'est l'arrivée de mon premier fils, où même si le métier de commerce est prenant, il est sûrement moins, en tout cas moins décalé que dans la restauration, où vous terminez toujours à des heures tardives, et j'imaginais mal voir mes enfants dans cette vie-là. Là, j'ai la chance de pouvoir emmener mes enfants le matin à l'école. Le soir, même si je ne les vois pas beaucoup, c'est du bonheur. Donc après, bon, il y a la journée du dimanche, parce que je suis fermé le dimanche, où je profite quand même d'une journée avec mes enfants et ma femme. Et puis voilà, donc c'est vrai que c'est peu une journée pour profiter de sa famille, donc tous ensemble. Donc le dimanche est vraiment consacré à ça. Et puis le sport, oui, j'essaye d'en faire un petit peu, mais c'est plutôt du sport, de la motivation personnelle que régulier dans un club où là encore, bah, je suis un petit peu confronté aux horaires de commerçants ou les disponibilités, et puis en tout cas bon, pour profiter un minimum de sa famille, donc pour le moment, en tout cas tant qu'ils sont encore petits, je conçois pas de rentrer à la maison pour partir ailleurs faire du sport, donc voilà.
Et au niveau des vacances, quelles seraient par exemple vos vacances de rêve, destination idéale ou une activité idéale Si vous gagniez au loto, par exemple, qu'est-ce que vous feriez?
Vous savez, pour moi, le bonheur est simple. Hein, donc, il n'y a pas vraiment de destination de rêve. Bon, j'aime le voyage, ça c'est sûr. Donc, je crois que si je gagnais au loto, ça serait emmener ma petite famille découvrir un petit peu le monde. Mmh. Pour moi, l'essentiel c'est avant tout de profiter des moments de la vie pleinement, voilà, simplement des moments de joie, tous ensemble. Voilà, donc c'est avant tout ça le plaisir premier quand. Donc après, bon, les vacances peuvent être. On a la chance de vivre dans un beau pays. Je crois qu'on n'a pas besoin forcément d'aller très très loin pour découvrir des beaux paysages, bon, j'aime la nature, j'aime profiter aussi de beauté naturelle, donc, quand on est dans un lieu et après c'est profiter, ça peut être profiter de la richesse d'un patrimoine, de culture, ça serait d'aller visiter des châteaux, visiter des musées, des choses qui vont évoluer aussi avec l'âge de mes enfants ou l'intérêt pour l'histoire, je pense que j'y attache de l'importance aussi, c'est bien de. D'ailleurs, autour du vin, c'est un petit peu soulevé aussi l'historique en découvrant une région, pourquoi la vigne a été plantée, sur ces terroirs. Donc, on découvre après une partie de l'histoire, donc on a envie d'en connaître un petit peu plus. Et donc ça m'intéresse aussi, donc j'ai envie d'intéresser mes enfants aussi, sensibiliser en tout cas à l'histoire, puisque bon, c'est quand même intéressant de faire un retour en arrière et de voir ce qui a été fait avant nous. Donc voilà, c'est profiter des choses de la vie. Simplement. Voilà.
Est-ce que vous avez le temps de regarder les médias, de lire les journaux, regarder la télé ou...
Pas trop, à vrai dire. Mm. Moi, je prends le temps de regarder La République le matin en prenant mon café, mais on ne peut pas dire que je sois souvent le nez dans les journaux, ou en tout cas encore moins devant la télévision.
Mm. Oui, vous n'avez pas trop le temps de...
Non, et puis c'est un choix aussi... Je trouve que voilà, il faut être confronté à la réalité des choses, mais des fois on a envie de déconnecter aussi un petit peu pour se protéger, protéger un petit peu dans la joie de vivre. on a parfois tendance à entendre que les mauvaises nouvelles et en tout cas de plus en plus je trouve. Et moins les petits bonheurs justement de petits bonheurs de la vie. Donc c'est aussi un moyen d'éviter, parce qu'on est je trouve qu'on n'a pas forcément en tout cas en tant que commerçant, je suis beaucoup plus pour l'échange à vive voix, et je préfère rencontrer quelqu'un et discuter des faits divers ou de diverses choses de l'actualité. De cette manière, plutôt que des fois s'enfermer dans une vision, une vision de voilà d'un média ou ou d'une personne, voilà. Donc c'est une approche peut-être. J'aime bien me tenir au courant, mais voilà, c'est pas forcément un grand intérêt pour moi de papoter sur des choses qui ont moins, en tout cas, de moins d'intérêt et qui ont beaucoup d'intérêt des fois pour les médias, pour faire parler d'eux et entretenir voilà un intérêt pour leur voilà pour leur pour leur voilà leur leur enseigne, on va dire.
Mmh. Justement, si vous parlez à des gens de façon locale, est-ce que vous êtes au courant de la rumeur d'Orléans, ou est-ce que, parce que ça fait pas longtemps que vous êtes là, vous n'êtes pas forcément au courant de ce qu'on appelle la rumeur d'Orléans dans les années 70, qui était que les jeunes filles descendaient dans les cabines d'essayage, c'était la rue Royale ou la rue de la République, dans les magasins de vêtements, et elles étaient enlevées par des souterrains qui les menaient à la Loire, et c'était la traite des Blanches, c'est ce qu'on appelle la rumeur d'Orléans. Vous êtes au courant de ces...
Du tout.
Non, pas du tout.
Du tout, non,
ouais,
non.
Ça dépend, c'est qu'on interviewe des gens d'un certain âge, ah bah oui, ils ont bien connu ça, mais c'est vrai que les gens plus jeunes, ou les gens qui sont pas forcément orléanais de souche...
Ouais, d'accord.
C'est-à-dire en plus des magasins juifs, donc il y avait tout le relent d'antisémitisme, etc., des magasins de vêtements. Et donc, je pense que c'est parti sur quelque chose où... Ah, l'erreur répond. Vous aurez la suite de la rumeur au prochain numéro.
Alors, nous avons nous. Salut, oui. Je vais le recevoir vendredi. Là, comme tu veux. On a encore, justement, tu vois, j'ai passé la commande, ce matin. D'accord. Donc tu voudrais 12 et 12. Bah, dis-moi ce que... Ouais, maintenant, d'accord. Ça marche. Ouais, c'est bien ce que tu fais, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Tu me dis aussi si tu veux un autre petit coup de cœur. Ouais. Bon, d'accord. Bon, ça marche. Oui, bah, comme ça, à ce moment-là, Nadège, je pense qu'elle te déposera ça. Voilà. Bon, bah salut. Bon, bisous.
C'est les affaires. Hein.
Ben oui, il faut entretenir.
Ouais, donc je donne juste la fin de l'histoire. Je pense que c'est basé sur le fait qu'une jeune fille aurait disparu. Enfin, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et donc après, il y a eu cette rumeur sur le fait que donc, les jeunes femmes qui partaient dans les cabines d'essayage et ne remontaient jamais. Et que comme il y a des souterrains sous différents commerces qui mènent jusqu'à la Loire, ça aurait été la traite des Blanches et qu'il y avait un trafic de femmes, etc. Donc ça, c'est...
D'accord.
Répertorié, enfin, il y a un livre d'Edgar Morin sur justement les différentes rumeurs dans différents endroits, et Orléans est connu pour ça. Donc, il faudrait que j'aille plutôt chez Bègue et Badinier pour leur demander.
Oui, je pense. Ouais.
J'avais une question que j'ai oublié de vous poser, c'est sur le nom de votre votre cave.
Oui.
C'est Anthocyane.
Anthocyane, oui. Alors, Anthocyane, c'est le nom que l'on donne au pigment du raisin rouge. Donc c'est de la racine grecque anthos, donc c'est tout ce qui porte sur le végétal, et cyan, donc la couleur. Donc c'est vrai que c'est pas un mot qu'on utilise fréquemment, que l'on trouve difficilement même dans certains dictionnaires, mais voilà, dans le milieu de la viticulture, c'est un terme qu'on utilise régulièrement. On parle de richesse en anthocyane dans un moût de raisin. Donc voilà, c'est ce qui va faire le pouvoir colorant de ce moût. Et donc les anthocyanes sont aussi souvent reconnus en médecine pour leur pouvoir antioxydant. Donc voilà, dans la cardiologie, tout ça, on connaît les anthocyanes où on avait tendance à proscrire du vin rouge assez tannique pour les malades du cœur. Voilà, ça avait plutôt un effet bénéfique sur la santé. Donc à une certaine époque, voilà, on n'hésitait pas à proscrire du vin rouge. Mais voilà, donc je trouve un joli mot et ça change, ça aurait pu être Cave Fabrice, mais...
oui, ça change un peu.
Voilà, ou Cave Bacchus.
Et donc là, j'ai juste une dernière série de questions pour terminer sur en fait, la langue qu'on parle à Orléans, justement en venant de l'extérieur. Est-ce que vous trouvez que les gens ont une façon propre de parler à Orléans, ou que, est-ce qu'il y a un accent ou pas du tout?
Je trouve pas spécialement. Autant dans ma région natale, on rencontre souvent le patois, parfois carrément le breton, mais c'est quand même un petit peu plus loin. Je ressens pas forcément j'ai des amis qui sont plutôt de la région du Berry. Là, je ressens souvent plus d'influence dans le langage un peu patois, justement. Sur Orléans, j'ai pas l'occasion spécialement de trouver une différence. Je ne sais pas s'il existe une langue propre, mais...
C'est plutôt la Sologne, surtout pour plutôt le parler, oui, Sologno.
Sologno, oui.
Mais sur Orléans, c'est vrai que ça avait été choisi justement par les enseignants-chercheurs britanniques, parce que le Val-de-Loire, hein, Tours-Orléans, c'est censé être la partie qui a le moins d'accent, la partie la plus neutre. Bon, vous avez l'accent du Nord, du Midi, mais justement, là, ce Val-de-Loire, c'est la partie sans accent. Donc c'est pour ça qu'ils avaient choisi cet endroit, en se disant, comme ça, nos étudiants, ils auront moins de mal à comprendre.
D'accord, ah oui. Donc, ils ont bien choisi, je pense.
Ouais, je pense pas qu'il y ait d'accent particulier.
Non.
Ouais. Et en ce qui concerne la façon de parler en général, est-ce que dans les médias, par exemple, vous pensez que les gens parlent de mieux en mieux, de plus en plus mal? Est-ce qu'on entend à la télé, à la radio? Est-ce que le français s'appauvrit ou...
S'appauvrit, je pense pas, mais on a peut-être tendance à le simplifier. Il évolue aussi, donc je crois que ça fait partie un petit peu de l'histoire de la langue, hein. Je pense que ça, on entend des nouveaux mots, bon, des mélanges un petit peu, parfois anglo-saxons, parfois je pense pas qu'ils s'appauvrissent, mais peut-être beaucoup plus à l'écrit. À l'écrit, c'est là où je m'inquiète des fois un peu quand je vois certains jeunes que j'ai employés ou qui sont capables de faire 10 fautes dans une phrase, ça me choque, ouais, ça me choque. parce qu'on a plus un langage phonétique et on attache moins d'importance à la grammaire et à l'orthographe française. Donc, oui, là, c'est parfois des fois, on a l'impression que des fois qu'il y a un petit peu de laisser aller. Alors, est-ce que quoi dans le langage oral, je pense qu'on garde une langue quand même riche, même si parfois on a tendance à un peu écorcher quand même notre langue, mais ça dépend à quel niveau social on se situe aussi, je trouve.
Après, c'est peut-être plus le fait du parler jeune aussi.
Le parler jeune, bon, ça, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Le parler jeune, bon, bah.
C'est de l'oral.
Oui, il y a toujours un langage qui est propre avec ses repères et où on est un peu codifié, un peu. On a tendance, pour être dans la mouvance, à utiliser des mots qui peuvent nous choquer un petit peu. Mais je pense pas que ça soit vraiment très très grave, en tout cas.
Et au niveau des langues étrangères, là, parce que là, le quartier, vous l'appelez comment? C'est déjà les Carmes ou c'est De Gaulle ou c'est...
Ouais, c'est plutôt quartier De Gaulle. Hein. On parle quartier des Carmes, on part vraiment sur la rue et les rues adjacentes, mais ici, la place de Gaulle, c'est un petit peu l'entre-deux, quoi. On est pas loin de la rue Royale, de la place du Martroi, donc on est quand même encore dans le caractère Orléans bien soigné, bien voilà. Après la rue des Carmes elle est à côté. Pour moi, bon, il n'y a rien d'affolant à avoir une rue cosmopolite en centre-ville. Je crois qu'il y en a dans toutes les villes. Bon, après la rue risque de... Moi, j'ai pas connu l'époque de la rue des Carmes lorsqu'elle était fréquentée justement par de nombreux commerçants de proximité, justement avec l'esprit plutôt artisanal. Bon, là, c'est vrai que quand on traverse la rue des Carmes, on se sent dans un genre de grand souk. Mais bon, voilà, il faut bien partager. Différentes cultures et façons de vivre. Bon, après, tant que tout ça est vécu dans le respect. Mais voilà, bon, donc la rue des Carmes, avec la deuxième ligne de tram, peut-être qu'elle reprendra un petit peu de valeur. Disons, si j'ai la vision vraiment de commerçants, c'est vrai que si l'axe se développait en allant sur des commerces un petit peu plus de bouche ou de artistique ou des choses comme ça, peut-être qu'une population qui a peur un petit peu de la rue des Carmes traverserait plus volontiers la place de Gaulle. Voilà, c'est ma vision de commerçant, mais après c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas mettre les pieds dans la rue des Carmes. Comment après c'est il voit chacun, mais moi j'ai jamais vu d'inconvénient à avoir une rue comme ça, comme celle-ci en tout cas, à proximité.
Et donc là, vous êtes peut-être plus à même d'entendre différentes langues étrangères.
Oui, c'est sûr. Bon, c'est sûr qu'on entend, on entend parler l'arabe, on entend parler le turc, on entend parler africain. Oui, il y a une... Il y a un véritable mélange dans cette condensé dans cette rue. Hein,
Et Et donc la dernière question, ou l'avant-dernière, c'est sur la cuisine, donc ça tombe bien, sur la gastronomie. Est-ce qu'il y a un plat qui vous vient à l'esprit comme étant typique d'Orléans, ou alors de la région?
En plat typique, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Ouais, moi j'imagine en ce moment voilà les asperges qui sont cultivées sur les bords de Loire, sur la Sologne, en ce moment où la saison est courte, où on se fait vraiment plaisir avec ce légume. Et puis j'imagine après évidemment tous les gibiers de la Sologne qu'on utilise volontiers, plutôt évidemment pour la période automne et hiver. Mais voilà, ça va être plutôt moi j'imagine le lièvre à la royale, voilà, j'imagine ces plats plutôt goûteux, avec des produits de gibier. Bon, vous voyez, moi j'imagine aussi, avec la proximité de Loire, tous ces poissons fins comme le sandre, donc voilà, le sandre au beurre blanc. Bon, c'est un plat délicieux. Malheureusement, dans la Loire, ces poissons, on les trouve de moins en moins. Oui, on imagine cette cuisine qui est à la fois portée sur les viandes de venaison et puis ces produits de rivière. Voilà, c'est un peu l'image que j'aurais d'Orléans, en tout cas, avec la proximité, voilà, de, puis après tous les produits de Touraine qui sont proches aussi, donc mais c'est un petit peu cette influence-là que j'imagine.
Et donc, comme vous êtes cuisinier, ça a bien tombé, parce que là, c'est vraiment la dernière question. C'est une question qui avait été posée justement par les Britanniques pour avoir un petit peu le descriptif d'une recette. Et ils avaient posé la question de l'omelette. Donc nous, on a repris ça à 40 ans de distance. Et donc, on pose à chaque personne, on leur demande de nous donner la recette de l'omelette. Donc si je vous demande comment est-ce que vous faites une omelette, qu'est-ce que vous me...
Ah, une omelette, la recette est basique, mais en même temps, c'est le coup de main pour avoir une omelette légère, aérée. Il est important quand même de battre les œufs quand même longuement pour essayer de homogénéiser les blancs des jaunes, et en essayant d'émulsionner en quelque sorte les œufs. Et après, bon, moi j'aime bien des fois y ajouter un petit peu de crème pour la rendre encore plus onctueuse. Faut bien l'assaisonner, et puis après, bon, on peut y ajouter d'autres ingrédients, mais à la base, je pense que c'est avant tout des œufs battus. Mais plus vous allez apporter d'attention dans le coup de fouet, plus vous allez avoir une omelette justement légère, onctueuse. Il ne faut pas qu'elle soit trop cuite, et voilà, elle doit le cuire à feu doux, et prendre cette couleur dorée, et puis la retourner pour qu'elle reste onctueuse au milieu et puis dorée autour. Voilà, c'est ma façon d'imaginer l'omelette. Un plat simple, mais qui peut être très...
assez raffiné quand même.
Très raffiné, voilà. Tout à fait.
D'accord, bon, je vous remercie.
Voilà, je vous en prie, c'était un plaisir.